Le fils Mauga. Première partie, chapitre 10. Adossé à la roche qui montait à pic et qui étendait en guise de parasol des bouillées de tilleuls poussés dans les fentes, Étienne faisait une étude à la fontaine des âges. À ses pieds, une source voilée de lierre sortait du rocher et gagnait à petit bruit la Charente qui coulait, non loin de là, à travers une futaie de saules et de peupliers blancs. Les arbres élançaient d'un jet leurs fûts sveltes et minces. Les cimes feuillues se rejoignaient, à une grande hauteur, au-dessus du sol spongieux, semé de fougères. Elles se croisaient par-dessus l'eau somnolente, où se reflétaient nettement des enchevêtrements de branches et des coins de ciel bleu. Toutes ces feuillées humides tamisaient mollement la lumière et les dessous étaient colorés de tons d'une finesse exquise. La gamme des verts était là au complet. Depuis le vert blond des crosses de fougères jusqu'au vert sombre des aunes. Parfois, l'envolée d'un oiseau écartait les ramures de la voûte. Un rayon de soleil tombait par cette trouée, jetant des éclaboussures d'or dans le courant assoupi, sablant de paillettes les tiges mouillées et mettant soudain en lumière le panache rouge d'une salicaire ou les ombelles rosées d'une impératoire. À 100 pas, dans l'herbe du talus, une paysanne vêtue de droguet bleu était agenouillée au-dessus de l'eau et lavait son linge d'une blancheur mate. Plus loin, entre les fils d'arbres, on apercevait les murs gris du moulin des âges, dont le tic-tac alternait avec le bruit frais du battoir. Une paix profonde semblait pleuvoir du haut des arbres avec la lumière veloutée. Étienne, tout à son étude, se laissait gagner par cette quiétude des choses et y oubliait un moment les cruelles préoccupations de la semaine passée. L'effort énergique de la volonté l'avait ramené au travail. Les souffrances morales s'étaient endormies et le peintre restait seul aux prises avec la nature. L'art est le plus puissant des anesthésiques. Dans cette lutte ardue de l'artiste pour rendre, à l'aide de procédés matériels, les impressions les plus fugaces, les nuances les plus insaisissables, le cerveau est obligé de concentrer toutes ses forces, toute sa puissance nerveuse sur un seul point. Il y met son intuition, sa mémoire, sa sensibilité, sa passion. Il s'y absorbe et tout le reste n'existe plus. Étienne, subissant cet enchantement de l'effort intellectuel, ne pensait plus qu'à rendre avec son pinceau les caresses de la lumière verdissante qui enveloppait le sol, les herbes, les troncs d'arbres. Il n'avait plus qu'une préoccupation. Exprimer la fluidité de cette eau à peine courante où les branches se reflétaient. Traduire l'impression de cette nature mouillée et touffue, assoupie et cependant active. Faire entendre et voir aux indifférents qui s'arrêteraient devant ce bout de toile tout ce qu'ils voyaient et entendaient, lui, à cette heure. L'essaim des moucherons dansant à fleur d'eau, le frisson de gaz des libellules frôlant la pointe des roseaux, l'animation de cette lavandière occupée là-bas à battre son linge, la vie, enfin, avec son mouvement et ses surprises. Derrière Étienne, un petit sentier de chèvres dévalant de la crête du coteau boisé et contournant le mur de roche avait été frayé par les bûcherons et les pastours qui descendait à la source. L'artiste était tellement absorbé que le bruit des menus graviers, roulant dans la sente sous le choc de deux pieds lestes, n'arriva même pas jusqu'à ses oreilles. Il clignait les yeux et les fixait sur l'eau avec cette expression béatement attentive qui est particulière aux paysagistes. Puis il les reportait sur la toile, ajoutait une touche légère et se remettait à contempler l'image des branches reflétées par le courant. Insensiblement, cependant, il s'aperçut qu'il observait les détails avec une attention moins soutenue. Sa furie d'exécution commençait à se ralentir et son coup de pinceau n'avait plus la même sûreté. Il était pris de cet indéfinissable malaise qu'on éprouve lorsqu'on travaille en se sentant regardé. N'y avait-il qu'une fatigue physique, ou ce phénomène nerveux était-il dû à une cause étrangère? Après avoir essayé de lutter pendant quelque temps contre cette influence mystérieuse, Étienne posa sa palette sur l'herbe et tira ses bras, puis, par un mouvement de curiosité inconsciente, il tourna la tête et fit un brusque sursaut. Thérèse Desroches était derrière lui. Debout, au détour du sentier, appuyée d'une main à l'angle du rocher et tenant de l'autre les brides de son chapeau de paille, elle regardait silencieusement l'étude du jeune Moga. Dans l'encadrement formé par la roche et les retombées des tilleuls, sa svelte silhouette se détachait vivement sur le fond clair de la rivière et des prés. La course et le temps chaud avaient rosé son teint mat. Ses yeux noirs luisaient dans le demi-jour. Un léger souffle d'air jouait dans ses cheveux ébouriffés et dans les rubans bleus noués au corsage de la robe de toile. « Pardon, » dit-elle en répondant au geste de surprise d'Étienne. « Je suis indiscrète. Je croyais ne trouver personne à la source et j'étais venu y chercher du cresson. » Le jeune homme s'était levé. Elle se rapprocha de la toile. « Comme c'est joli ce que vous faites, » continua-t-elle. « Tout y est, l'eau, le ciel, les arbres, et jusqu'à ce nénuphar blanc qui s'ouvre au milieu de ces trois feuilles rondes. » Étienne la regardait, et l'admiration naïve qui éclatait dans les yeux de la jeune fille, l'ayant convaincue de la sincérité du compliment, il lui dit combien il était flatté de son appréciation. « Oh, » reprit-elle, « je ne m'y connais pas. Je suis une ignorante. » « Comme ça doit être difficile de peindre tant de choses sur un petit carré de toile et d'en faire une image vraie. » « Oui, assez, » répondit le jeune homme en riant. « Mais aussi, après, quand on a réussi, comme on doit être content. » « Ma foi, cela console de bien des ennuis, » fit-il avec un soupir. Il y eut un moment de silence. Étienne repensait aux tristes découvertes qu'il avait faites en 8 jours, et la vue de Mademoiselle Desroches les lui rappelait plus vivement encore. Son visage s'était rembruni, et Thérèse, comme si elle eût deviné la pensée qui tourmentait le jeune homme, semblait à son tour confuse du rôle qu'elle avait joué. Elle détournait les yeux et arrachait distraitement les feuilles de scolopendre qui tapissaient la roche. Tout au fond de la verte coulée formée par les ramures entrelacées, la lavandière contemplait d'un air intrigué le groupe des deux jeunes gens, et l'on n'entendait plus le bruit de son battoir. Étienne s'était rassis. Pour ne pas gêner la jeune fille, il commençait à nettoyer sa palette et à ranger ses pinceaux. Au moment où il allait enlever l'étude, Thérèse l'arrêta d'un geste brusque. « Laissez-la-moi regarder encore, » dit-elle d'une voix très douce. Il la replaça sur le chevalet et Mademoiselle Desroches se pencha pour mieux l'examiner. « vous n'avez rien oublié, poursuivit-elle. Et la laveuse, là-bas, dans le fond, est tout à fait ressemblante. Est-ce plus malaisé de peindre les gens que les arbres ?
La difficulté est la même, répondit-il. Un arbre a une physionomie qui n'est pas plus aisée à attraper que celle d'une paysanne.
Ainsi, vous pourriez faire le portrait d'une personne aussi fidèlement que celui d'un saule ?
Oh, je crois que oui, répliqua-t-il en admirant les lignes fermes et franches du profil de Thérèse, et, la regardant droit dans les yeux, il ajouta en plaisantant
« Voulez-vous que j'essaie de faire le vôtre, mademoiselle ?»«
Vrai ? » s'écria-t-elle avec un gai pétillement dans les yeux.
« Vous consentiriez à peindre mon portrait ?»«
J'en serais enchanté, si la chose était possible. »«
Elle est très possible, » reprit-elle avec vivacité. « Et nous commencerons quand il vous plaira ?»«
Où et comment ?» demanda Étienne un peu interloqué.
« Ici, tous les jours où il fera beau temps ?»«
Mais, » objecta le jeune homme, « vous laissera-t-on venir et ne trouvera-t-on pas cela singulier ?»«
Oh, » répondit-elle, « je me promène souvent seule à travers champs. C'est une habitude que j'ai prise alors que j'étais une paysanne et on me l'a laissée. Mon père est en route presque toute la journée. » Et depuis longtemps, je n'ai plus de mère qui s'occupe de moi. Vous le voyez, termina-t-elle avec une nuance de mélancolie, je suis très libre de mes actions.
Le ton un peu triste avec lequel ces derniers mots avaient été prononcés frappa Étienne et lui remit en mémoire la scandaleuse aventure qui avait déterminé la fuite de Madame Desroches. La jeune fille avait, elle aussi, une tare dans sa famille, et, comme lui, elle était condamnée à subir cruellement le contre-coup d'une faute commise par l'un de ses parents. Cette similitude dans leurs deux destinées toucha le jeune homme et l'attendrit. Il enveloppa Thérèse Desroches d'un regard sympathique.
« Eh bien, puisqu'il en est ainsi, mademoiselle, » dit-il en refermant sa boîte et en repliant son chevalet, « je suis à votre disposition.
Voulez-vous que nous commencions demain ?»«
Avec grand plaisir » s'écria-t-elle.
Il avait fait un paquet de son attirail de peintre et il se préparait à le déposer chez le meunier des âges.
« À demain donc, après-midi. Vous me trouverez près de la source. »
Il tendit la main à Thérèse, qui la lui serra franchement, et il s'éloigna dans la direction du moulin. Le lendemain, dès 1 heure, par un clair soleil d'août, Étienne s'installait à la source des âges avec une ardeur et un entrain qu'il n'avait pas retrouvé depuis le matin de son départ pour la noce du Breuil. La promesse faite à Mademoiselle Desroches avait donné à sa vie un assaisonnement nouveau. C'était une bonne fortune que d'avoir pour modèle pendant des semaines entières une jeune fille intelligente et jolie, qui ne ressemblait en rien aux demoiselles de Saint-Clémentin. Il attendait l'arrivée de Thérèse avec un vif sentiment de curiosité. Elle ne se fit pas trop désirer. Un pas rapide, accompagné d'un frôlement de jupe, annonça bientôt qu'elle descendait le petit sentier, et elle apparut au détour de la roche dans la même toilette que la veille. À la vue du châssis, déjà posé sur le chevalet, les yeux noirs de Thérèse brillèrent, et elle sourit.
« Suis-je en retard ? » demanda-t-elle.
« Non, » répondit-il, « nous avons 3 grandes heures devant nous, et nous pouvons déjà faire de la bonne besogne. » Il la posa comme il l'avait vu le jour précédent, tête nue et debout près de la roche, s'enlevant sur le fond clair de la rivière et de la prairie. Puis il commença à la dessiner sur la toile neuve. elle obéissait docilement à ses indications, bien que l'immobilité la fatiguât vite et qu'elle eût une grande difficulté à garder longtemps la pose. Craignant de la lasser, ils coupaient la séance de longs repos, pendant lesquels ils devisaient tous deux familièrement, assis au bord de la source sur laquelle des araignées d'eau exécutaient leurs capricieuses glissades. Quand 5 heures sonnèrent à l'église de Savigné et qu'il fallut se quitter, le dessin de la tête était à peine indiqué. On s'ajourna au lendemain et les séances se succédèrent ainsi à travers tout le mois d'août qui fut exceptionnellement beau. Le portrait n'allait pas vite. Étienne était rarement content de lui et n'hésitait pas à gratter impitoyablement les morceaux dont il n'était pas satisfait. Pendant ce temps, une intimité plus étroite s'établissait entre ces jeunes gens, qui avaient tous deux une nature communicative. Leurs dispositions expansives étaient encore doublées par la vie en plein air et par cette familiarité forcée que créent les relations de peintre à modèle. Ils se contaient volontiers leurs souvenirs d'enfance, leurs impressions de couvent ou de collège, leurs observations sur le monde de la petite ville. Un seul point était laissé de part et d'autre en dehors de la conversation. Étienne se taisait sur les faits et gestes de M. Mauga, et Thérèse ne parlait jamais de sa mère. C'étaient les deux choses qui leur tenaient le plus au cœur, mais par un sentiment de pudeur réciproque, ils évitaient d'effleurer ces deux sujets délicats, comme on craint d'appuyer le doigt sur une plaie mal fermée. Insensiblement et inconsciemment, un grain de tendresse se mêla à leur amitié. Cela devait arriver forcément entre une jolie fille de 16 ans et un garçon de 22. Au bout d'un mois, les rapports de Thérèse et d'Étienne étaient devenus plus tendres, sans que cependant le mot d'amour eût été prononcé. Rien, du reste, d'équivoque ni de troublant ne s'était passé qui pût les éclairer sur cette modification de leurs sentiments. Étienne était d'un caractère trop honnête et trop droit pour abuser de la confiance que lui témoignait la jeune fille, et Thérèse, de son côté, nature saine, robuste et bien équilibrée, n'était ni sentimentale ni romanesque. Leur amitié avait plutôt les apparences d'une cordiale et chaude camaraderie, sans coquetterie ni fausse pruderie d'une part, sans compliments ni protestations langoureuses de l'autre. Seulement, plus les jours se succédaient, plus ils sentaient de plaisir à être ensemble, et plus ils s'efforçaient de multiplier les occasions de se voir. Parfois, ils laissaient là la pose, la toile et les pinceaux, et faisaient côte à côte de longues promenades le long de la Charente, dont le cours sinueux, entre des rochers et des bouquets de bois, offrait à chaque instant à leurs yeux des sites nouveaux et charmants. Ils allaient ainsi jusqu'aux grottes de Chaffaut ou jusqu'au hameau de Malpierre, escaladant les plessis, passant la rivière Aguet sur d'anciens barrages, se frayant un chemin dans les brandes semées d'ajoncs. Puis ils s'en revenaient lentement, chargés de bottes de fleurs, par des traînes bordées de grandes haies, où des chèvrefeuilles sauvages embaumaient l'air de leur parfum de vanille. Par ces chaudes soirées de septembre, la jeunesse se fermentait plus fort dans leurs veines. Le plein air et la tiède influence de l'automne doublaient la puissance de leurs sensations. Leurs yeux brillaient plus vivement. Leurs narines se dilataient avec plus de volupté pour respirer la capiteuse odeur qu'exhalent les châtaigneraies à l'arrière-saison. Leurs oreilles s'ouvraient avec délice pour écouter les lointaines et mélancoliques vocalises des pastours qui haraudaient pour rappeler leurs ouailles. Ils semblaient ignorer tout danger et ne croyaient pas mal faire en se promenant ensemble. Ils étaient heureux de se voir, de s'entendre parler, d'éprouver de concert les mêmes sensations exquises en face de la nature sauvage. Et c'était tout.